Le vendredi de 16h à 17h, FME Radio vous emmène au XXIVe ciel.
Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous dans 24e ciel sur FMR. Très heureux de vous retrouver dans votre rendez-vous du vendredi après-midi qui vous emmène au 24e ciel. Julien et Romain sont bien sûr avec nous. Salut Julien.
Salut mon cher, comment il va en ce vendredi?
Mais il va très bien, et vous-même?
Oh, ça va très bien, bien hâte de me reposer ce week-end.
Ah, il arrive, encore un petit peu de patience. Salut mon Romain.
Salut Charles.
Comment tu vas?
Très très bien.
Ah génial, alors qu'est-ce qui vous attend cet après-midi? On vous a préparé de très bonnes choses, restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Julien nous parlera des Game Awards, on connaîtra le grand gagnant de l'élection du meilleur jeu vidéo de l'année, et on saura tout sur le choix du public. On continuera ensuite avec Le Saviez-Vous, avec pas une, mais deux infos surprenantes. Ouais, plus généreux que nous, on ne fait pas. On parlera également sport automobile avec Romain qui nous parlera du Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi. Puis on reviendra sur ce qu'il ne fallait pas manquer sur les réseaux sociaux. On recevra enfin notre invité de la semaine, c'est Joachim Gilles qu'on retrouve tous les jeudis de 19h à 20h dans la mi-temps sur LFM Radio. Mais on commence tout de suite avec les infos de la semaine. Souvenez-vous, on en a parlé la semaine passée, Miss France 2026 a été élue à Amiens samedi soir. Julien, Romain, vous avez suivi cette soirée à la télévision?
Non, du tout. Jamais je suis ça.
Jamais?
Jamais, ça ne m'intéresse vraiment pas du tout.
Ah ok. Et toi, mon Romain?
Non, j'ai jamais regardé non plus.
D'accord, c'est surprenant. Moi, j'adore.
Ah, t'adores ça?
Non, très sérieusement. Pas pour regarder nécessairement des jolies filles en maillot de bain défiler, mais parce que c'est une soirée spectacle en fait. Et des soirées comme ça, c'est spectaculaire. Moi, personnellement, vraiment, j'aime beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai regardé comme chaque année, comme ça, tranquillement, avec mon chien, une petite bouteille de vin devant Miss France. J'étais très bien. Je vous le recommande pour l'année prochaine, les gars. Mais vous savez quand même qui a été élu Miss France 2026?
Je parierais sur Miss Tahiti. On en a parlé la semaine dernière.
Je ne dis rien. Bon, j'ai une idée, toi ou pas?
Pas du tout. Hein. J'imagine Miss Tahiti aussi, du coup.
Ouais. Un point pour Romain. Il a bien parié. Bien joué, mon Romain. C'est évidemment un Inao Poco de Vez, un Miss Tahiti, hein, mon Romain, qui était d'ailleurs favorite, comme tu l'as dit, hein, favorite pour l'élection, qui a été sacrée reine de beauté. Il faut savoir que c'est la 6e Miss Tahiti à devenir Miss France. Hein. Pour vous la présenter en deux mots, avant de se lancer dans l'aventure des Miss, elle était en licence de psychologie et en parallèle, elle travaillait dans une entreprise touristique comme secrétaire administrative et organisatrice de séjours éco-responsables à destination des îles Marquises, d'où sa mère est d'origine d'ailleurs. Son père, lui, est d'origine de France métropolitaine, ce qui lui a donné ce beau métissage à Inao Poco. Et c'est la santé mentale, hein, la cause qu'elle a choisi de soutenir. Toutes nos félicitations, Miss France. Romain, Julien, qu'est-ce qui avait lieu sur France 2 en même temps que l'élection de Miss France?
Du rugby?
Mauvaise réponse, là, Julien.
Je sais pas, moi, du basket.
Du basket, bah, j'allais te dire que la balle était dans ton camp. Ok, aussi bonne vanne que d'habitude. Et non, messieurs, et non, c'était la 39e édition du Téléthon, ce marathon télé hein, de 30 heures qui a rapporté 83,5 millions d'euros de promesses de dons. Hein. On parle bien de promesses de dons au profit de la recherche sur les maladies génétiques rares. Il faut savoir que les promesses de dons, parfois, sont en dessous de l'argent qu'ils récoltent finalement. Hein. Il y a des années où, admettons, c'est 85 millions de promesses de dons qui sont promises au Téléthon et en réalité, c'est 90 millions d'euros parfois qu'ils récoltent. Hein. Ça, faut bien le savoir. On espère que ce sera le cas de toute façon cette année-ci aussi. Dites, vous savez qui était la marraine du Téléthon cette année?
Ah non, mais tu vas nous le dire.
Ouais, quelqu'une que j'apprécie beaucoup, que j'admire beaucoup. Mon Romain, une idée?
Absolument pas, non.
Ah mais alors écoutez, je vais vous le dire, c'était Santa, et je suis heureux de vous le dire d'ailleurs, hein, parce que Santa elle fait tube sur tube, dis-moi oui, j'adore cette chanson, Santa hein, qui a décidément un cœur aussi bon que sa discographie, sachez qu'elle a fait don de 99 990 euros lors du lancement vendredi, et pourquoi est-ce qu'elle a offert précisément 99 999 euros, Santa?
Je sais pas, il lui manquait 1000 balles.
1 euro pour faire 10 000 euros. Hein.
1 euro
100 000 euros. Waouh, les calculs, c'est compliqué.
Ah ouais, ça, c'est dur, ça.
Hey, fin de semaine, tu dis toi-même, mon Julien.
Ah, je comprends.
Ouais, on s'accroche, qu'est-ce que tu veux.
Ouais, d'accord.
Oh mon Dieu, oui. Bon, Romain, idée?
Non, mais ça me frustre, c'est 1 euro en moins, là. Non, c'est pas un beau chiffre rond.
Ça va pas te frustrer très longtemps. Charles va t'aider, mon Romain, parce que le 9 est son chiffre porte-bonheur et il représente aussi l'espoir. Elle voulait comme ça soutenir la recherche en puisant dans les bénéfices de sa tournée. Santa, deux mots pour toi, bravo et merci. Allez, on passe à l'info suivante. Vendredi passé, c'était le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, hein, qui se déroulera l'été prochain en Amérique du Nord. Ce sera du 11 juin au 19 juillet. On sera concerné en Belgique, hein, comme notre équipe nationale s'est qualifiée le mois passé. Les Diables Rouges connaissent maintenant leurs trois premiers adversaires, qui seront l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Alors, l'Égypte sur papier, ou plutôt sur papyrus, devrait être notre adversaire le plus difficile à battre. Et ce sera d'ailleurs notre premier match. Je vous rappelle au passage qu'on a perdu 2-1 contre eux en 2022. Pour le deuxième match, on affrontera l'équipe d'Iran, contre qui on jouera pour la première fois d'ailleurs. Puis pour le troisième match, on affrontera la Nouvelle-Zélande, contre qui on jouera aussi pour la première fois. Romain, tu penses quoi de ce tirage au sort ?
Après Charles, en toute honnêteté, on ne pouvait pas rêver mieux. Franchement, on a réussi à vraiment échapper toutes les nations les plus difficiles qu'on aurait pu rencontrer. On a vraiment un tirage très 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 clément. Pour moi, comme je l'ai dit, hein, les 9 points sont vraiment très prenables. Après, comme tu as pu nous le souligner, on s'est incliné face à l'Égypte dans un match quand même assez controversé, mais tout de même, ça restera aussi une Coupe du Monde, donc faudra vraiment pas prendre le match à la légère ou même prendre trop la confiance. On l'a vu au Qatar face au Maroc, on s'est bien fait prendre par surprise. Et même aussi au niveau du groupe, hein, parce que qui dit tomber dans le groupe G, si on finit premier, on peut jouer contre le premier du groupe D, et c'est le groupe des États-Unis. Donc là aussi, on tombera pas contre une grosse nation, donc franchement, que du bien maintenant. Et je m'adresse au diable, à eux de prouver et de nous faire bien comprendre qu'on pourra vraiment y arriver.
Ouais, carrément. Pourvu qu'ils puissent en faire bon usage, quoi.
Ouais, ouais, franchement, parce que là, on attend, les supporters belges ont beaucoup d'attentes, hein, sur ce tirage très, très en notre faveur.
À 100% mon Romain. Et qu'est-ce qui attend réellement les Diables Rouges alors ?
Bah alors, comme tu l'as dit, on va commencer par l'Égypte, une nation qui pèse quand même un niveau de l'Afrique, 7 CAN, qui est la Coupe d'Afrique des Nations, l'équivalent de l'Euro en Afrique.
Okay.
C'est une sélection qui n'a pas toujours connu la Coupe du Monde dès son dernier passage en 2018, ses 3 défaites. Mais comme on l'a vu, on s'est incliné face à eux, ça nous permettra de bien quand même rentrer dans le tournoi. Franchement, c'est un 3 points à prendre, et si on pouvait le faire, ça nous donnera vraiment une belle confiance par la suite. Après, on enchaînera avec l'Iran, une équipe habituée, hein, ça faut faire attention, habituée des phases finales. Cette phase finale quand même, elle a participé aux 4 dernières Coupes du Monde et leur phase qualificative était vraiment pas mauvaise du tout. Une grosse nation en Asie tout de même, ça devrait le faire, on les a jamais rencontrés, donc ça va être une première, mais quand même faire attention aussi, ils ont des très beaux cadres, notamment Tarik Rémi qui jouait à Porto, très gros club portugais. On terminera cette phase de poule du moins face à la Nouvelle-Zélande, une équipe qui peut créer la surprise, on sait-on jamais, ça reste une Coupe du Monde. Elle aussi, une équipe qui n'a jamais passé le premier tour, hein, qui n'a jamais passé le premier tour comme l'Iran, qui revient après 16 ans d'absence. Mais lors de sa dernière participation, elle a quand même su accrocher en 2010 l'Italie qui était tenant du titre. Hein, donc la Nouvelle-Zélande sait pertinemment qu'elle aura du travail à faire, mais voudra vraiment créer la surprise en plus. On est un peu aussi les Diables Rouges, l'équipe que tout le monde a envie de battre. Je ne sais, depuis 2018, tout le monde a envie de nous battre parce qu'on est d'un côté une très grande nation, mais qui sait par exemple s'incliner ou ne pas être là quand elle est attendue. Donc franchement, ça devrait le faire, mais les 9 points doivent être pris, mais on ne sait-on jamais.
Merci Romain, mais quand même, hein. Julien, t'entends ça, le spécialiste que c'est ?
Oui, bien sûr, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il pense, il pense ce qu'il dit, et il dit ce qu'il pense.
Très très beau, c'est bluffant. Hein. Allez, une dernière info, la plus importante pour moi, c'est ma sœur qui va se marier. Anne-Sophie et Julien, félicitations, je vous embrasse. Julien, Romain, un petit mot pour eux ?
Julien, j'ai entendu, comment ça ? Ouais.
Très beau prénom, n'est-ce pas ?
Ouais, c'est un beau prénom. Bah écoute, je leur souhaite un grand bonheur, beaucoup de belles années devant eux, et... Voilà quoi, grand bonheur.
Que c'est gentil.
Mais oui,
Romain.
Félicitations, franchement félicitations à ta sœur. Et si jamais il y a encore une table disponible pour le gâteau, je serai disponible ce jour-là.
Ah ben, on pensera à toi. Merci pour eux, les gars, je sais que ça leur fera plaisir. Encore un Julien. Encore un Julien. Julien, tu vas nous parler des Game Awards. Les amateurs de jeux vidéo, arrêtez tout. À toi mon Julien.
Bah écoutez, pour nos auditeurs les plus fidèles, j'avais déjà parlé des Game Awards il y a quelques épisodes d'ici. Bah en fait, la cérémonie s'est passée cette nuit à 1h du matin. Et évidemment, sans surprise, c'est Clair Obscur Expédition 33 qui a raflé la mise. Donc, je vais vous citer toutes les catégories. Attention. Alors, Meilleur jeu indépendant. Meilleur premier jeu indépendant du studio, hein. Donc premier jeu qu'ils ont fait. Meilleure performance pour la voix anglaise d'un des personnages. Meilleure direction artistique, meilleure bande-son, meilleur RPG, meilleur scénario, meilleure réalisation et évidemment, le jeu de l'année. Donc voilà, c'est super sympa pour ce studio qui, je le rappelle, a été composé de certains développeurs qui viennent de Ubisoft, un gros studio assez boudé pour l'instant parce qu'ils font un peu de la merde.
Français.
Français.
Vous avez expliqué qu'il était français.
C'est vrai, et le studio Sunfall qui a fait Clair Obscur est français aussi du coup, qui viennent de Ubisoft.
Parce que tu parles, je retiens.
Et ça c'est beau, et ça c'est très beau. Mais sauf que voilà, je vous donne l'info. Maintenant, il y avait aussi un vote. Une catégorie appelée le choix du public. Donc il y avait Clair Obscur et ils étaient aux côtés de Dispatch, Silksong et deux jeux gacha. Et les jeux gacha en fait c'est pas sorti cette année. Genshin Impact, le jeu gacha par excellence qui était sorti en 2020, et Wuthering Waves, aussi un jeu gacha qui était sorti l'année passée en 2024. Le truc, bah, c'est que ces jeux-là sont mis à jour régulièrement. Puisque c'est des jeux gacha, je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est des jeux gacha.
Bien sûr que non.
Voilà, je me disais bien. En gros, c'est un jeu où tu peux... T'as plein de mises à jour tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu peux débloquer des personnages avec de l'argent du jeu ou avec du vrai argent. Donc c'est un peu un délire casino, voilà. Et en gros, c'est mis à jour tout le temps. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que les jeux qui sont mis à jour régulièrement, qui ont une durée de vie plus longue qu'un jeu à histoire avec un début et une fin, par exemple, est-ce que pour vous, ce jeu a sa place dans le jeu de l'année, enfin le truc de l'année?
Moi non. Enfin, pour moi, le jeu de l'année, c'est le jeu qui est sorti cette année-là, tu vois. Parce que sinon, tu pourrais encore donner, par exemple, des prix à Fortnite, alors.
C'est vrai. Ou Minecraft.
Ou Minecraft, ou... Parce que les Battle Royale aussi, c'est des mises à jour en continu, avec de l'argent, de faux argent. Donc, alors inclure ces jeux-là aussi, ça me paraît logique. Du coup, je dirais moi non. Je sais pas ce que t'en penses, Charles, toi, de ton côté.
Écoute, moi n'y connaissant rien, par principe, je dirais oui. Hein. C'est un jeu vidéo, ça se joue comme un jeu vidéo, alors
pourquoi pas. En fait, je t'explique peut-être sur une autre catégorie que tu comprends mieux, le cinéma. Disons.
Ah, voilà.
Je vais prendre Titanic. Et je vais rajouter des scènes à ce film, toutes et les années, tu vois.
C'est peut-être un mauvais exemple aussi, je connais pas trop les avions, donc avec Titanic...
C'est pas un avion, c'est une voiture, enculé.
Je suis venu aujourd'hui avec mon humour, mon juju. Ah oui, on laisse rien passer, mon humour et moi, on est là. Pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu.
Non, t'inquiète, mais en gros, je prends n'importe quel film, celui que tu veux. T'es quoi, donne-moi un film.
Titanic.
Et bah, Titanic, voilà, on repart là-dessus. Et bah du coup, tu vas prendre Titanic, qui est sorti je sais plus en quelle année mais assez vieux.
1995.
Bien joué.
J'avais 18
et chaque
ans.
Année, tu vas rajouter du contenu. Donc c'est, je sais pas, des scènes coupées, de nouvelles scènes, des scènes avant, tu vois, on va embellir le film de plus en plus dans l'année. Est-ce que du coup, tu pourrais voter pour le film de l'année Titanic en 2025 alors qu'il est sorti en 95?
Ah, je comprends, ouais, ce serait un petit peu tronqué, un peu galvaudé, mais par contre, moi je trouverais ça quand même super, hein.
Oui, ce serait pas... Enfin, ce serait intéressant, mais je pense pas qu'il devrait être voté pour un truc de l'année.
Ouais, ce serait pas sa place, quoi.
C'est ça.
Mon juju, on est d'accord.
Voilà, ça c'est bien, ça j'amène tout le monde. On rallie tout le monde à la cause.
Tous derrière toi.
Voilà, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Clair Obscur, qui a gagné, et qui a battu le record, d'ailleurs, de, je t'avais dit la dernière fois, de nomination, et cette fois-ci, de win, quoi.
Magnifique, ben merci Julien, merci, merci, merci et merci. On revient dans un instant avec Le Saviez-Vous, puis Romain nous parlera du Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi, le dernier Grand Prix de la saison. Bien sûr, on parlera aussi de ce qu'il ne fallait pas manquer sur les réseaux sociaux, puis on recevra notre invité de ce vendredi, ce sera Joachim Gilles qui sera avec nous dans 24e Ciel. A tout de suite sur FMR. On est de retour dans 24e ciel, merci d'être avec nous sur FMR. On passe maintenant à Le Saviez-Vous, saviez-vous quoi? Et que les bébés ont un accent quand ils pleurent. Et oui, notre langue maternelle nous influence dès le plus jeune âge, hein. C'est ce que nous apprend une étude menée par des chercheurs allemands de l'université de Würzburg. Si vous passez par là, alors ils ont découvert par exemple, hein, que les bébés français pleurent avec une intonation montante, alors que les bébés allemands pleurent avec une intonation descendante. Descendante, pardon. Ou encore que les bébés camerounais ont des pleurs plus longs et avec une plus grande variété de tons que ceux des bébés allemands. Ces intonations dans leurs pleurs, en fait, ce serait pour imiter l'accent de leur mère. Et qu'est-ce qu'on fait pour transformer les pleurs en sourires? On vous donne un deuxième, le saviez-vous? Ça nous fait plaisir. Alors, ça va être difficile à croire, mais vous le savez, je ne mens jamais. Même si je vous dis qu'un couple s'est marié sur l'épave du Titanic, alors je vous parle bien du vrai Titanic, hein, à plus de 3800 mètres de profondeur dans l'océan Atlantique Nord, c'était en 2001 et c'est un couple d'Américains qui s'est marié à bord d'un sous-marin de poche quand même, hein, où il n'y avait pas d'invité, ce qu'on peut comprendre. Alors c'est David, le futur marié à l'époque, qui avait gagné au concours d'un site internet qui offrait une excursion sous-marine dans l'épave du Titanic. Et David, devinez quoi, bah, il devait se marier à Kimberley 4 mois plus tard. Alors ce que leur a proposé la société qui organisait le concours, c'est de se marier sur le Titanic, ce qu'ils ont accepté avec beaucoup de bonheur. Et c'est le capitaine du sous-marin qui a prononcé le mariage, qui a coûté 560 000 euros hein, en 2001. Hein. Alors j'ai l'impression qu'on fait une émission sur le thème du mariage aujourd'hui. D'ailleurs, ce serait où votre lieu rêvé pour vous marier, mon Julien?
Écoute, j'ai jamais vraiment pensé à ça. Et je pense que le lieu ne compte pas vraiment, j'ai envie de dire. Je pense que c'est surtout la famille, les amis, les gens qui sont là, puis l'ambiance, et puis c'est le moment. Je pense que c'est plus le moment que l'endroit, personnellement.
T'as pas un contexte, un cadre vraiment dont t'as toujours rêvé, ou que suivant que certaines personnes l'ont fait là-bas, tu dirais franchement c'est une bonne idée, ce serait beau?
Ah, vraiment aucune idée, il n'y a jamais d'endroit qui me plaît, genre c'est pas... Ça peut être vraiment n'importe où, ça peut être dans un jardin, comme ça peut être dans
un canyon, tu vois.
Ça peut vraiment être n'importe où, tant que c'est cool, qu'il y a de l'ambiance, qu'il y a la famille, qu'il y a tout, quoi.
Chez toi, quoi. On va pas se faire chier, on le fait à la maison.
C'est pas impossible, quoi. Et puis c'est moins cher.
On pense à l'économie aussi, pourquoi pas. Et toi, mon Romain, une petite idée?
Ouais, moi, face à la mer. Mais en mode pas la journée, genre vers le soir, coucher de soleil, face à la mer, sur une plage ou pas, ça dépend. Ouais. Mais dans un pays chaud en été.
Avec un beau feu d'artifice au-dessus de la mer, dans une baie, genre c'est magnifique. Il y en a qui font ça, bon, ça coûte
pas
un petit peu cher.
Mais non, mais pendant toute la cérémonie, le coucher de soleil, mais qui est vraiment, genre par exemple, derrière nous. Genre tu vois, l'allée, t'as l'allée avec les gens ici, t'as nous au milieu, et derrière, t'as le coucher de soleil.
Ouais, super idée. Super idée.
Ce qui sera très peu probable parce que moi et ma copine pour l'instant veut se marier en automne, donc...
Oh, ça va, il y a peut-être moyen de s'arranger, non?
Ouais. Bah, en automne sous le soleil, qu'est-ce que je dis, moi? Qu'est-ce que je raconte? Je me reprends en été en automne sous le soleil.
Bah oui, mais il y a d'autres pays hein, dans l'hémisphère sud, bah, exactement, les saisons sont inversées, etc. Charles pense à tout.
Exactement.
Charles pense à tout, mais on ne lui demande pas son avis. Enfin, c'est rien, on passe à l'info suivante où je dis où moi ça me ferait plaisir de me marier.
Ah oui,
ou quoi,
toi, oui, bah oui, j'en allais oublier, toi.
Bah, c'est sympa, heureusement qu'il y en a un qui.
Tu préfères que je te redise que je t'emmerde, mon Charles?
Oui, oui, bah, je commence à avoir l'habitude, hein,
ça en fait. C'est comme ça, quoi.
Oh, j'allais vraiment changer de sujet, bah écoutez. Non, moi, j'aurais vraiment ex aequo entre Paris, une ville que j'aime beaucoup, il y a des très beaux endroits là-bas. Bon, même si le prix va avec, mais là, on parle comme ça d'idéal, comme ça. Franchement, un très bel endroit ou un très bel hôtel à Paris, ça me ferait super plaisir, ou alors sur la Côte d'Azur. Bon, j'aime beaucoup la France, en plus c'est pratique, on n'est pas loin, un petit peu comme Romain le dit, genre près de la mer, près de la plage, avec vraiment une belle vue, ce cadre-là, etc. Franchement, ça me plairait beaucoup. Et assez parlé de moi, on va maintenant parler de quelqu'un que j'aime beaucoup. Il s'appelle Romain, et il va continuer de nous faire voyager. C'est ça aussi qu'on aime chez toi, mon Romain. La semaine passée, tu nous parlais du Grand Prix de Formule 1 du Qatar. Aujourd'hui, on reste au Moyen-Orient avec le Grand Prix d'Abu Dhabi. À toi de jouer, mon Romain.
Et oui, Charles, on reste au Moyen-Orient pour ce dernier Grand Prix de la saison, aux Émirats Arabes Unis plus précisément. Un Grand Prix très attendu qui déterminera le champion du monde de cette saison 2025 lors de la course le dimanche. Pour rappel, trois pilotes sont encore en lice pour le titre. Les deux pilotes McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris, qui ont l'opportunité de décrocher leur premier titre de leur carrière. Et Max Verstappen, pilote Red Bull, champion en titre, qui garde une opportunité de remporter un cinquième titre de champion du monde consécutif. En début week-end, place aux trois séances d'essais libres prévues comme chaque début de week-end. De quoi prendre ses marques avant les qualifications. Une première séance peu représentative vu que 9 jeunes pilotes seront en piste. En effet, lors de la saison, les écuries de F1 sont dans l'obligation de faire rouler au moins deux fois sur la saison un jeune pilote lors des essais libres. Le tracé d'Abu Dhabi est d'ailleurs souvent utilisé par les 10 écuries pour faire rouler ces jeunes pilotes lors des séances obligatoires de la saison. Norris signe tout de même le meilleur temps à 8 millièmes de Verstappen, deuxième. Charles Leclerc signe le troisième temps. Norris signe également le meilleur temps lors de la deuxième séance, une nouvelle fois juste devant Verstappen. Verstappen. Et cette fois, la troisième place est occupée par George Russell. Le pilote Mercedes signera toutefois le meilleur temps lors de la troisième séance d'essai libre. En qualification, comme au Qatar la semaine dernière, les trois pilotes potentiellement champions démarrent devant. Verstappen en pole, suivi de Lando Norris et Oscar Piastri. On notera aussi une séance une nouvelle fois compliquée du septuple champion du monde Lewis Hamilton, qui démarrera 16e. Le pilote britannique semble ne plus y arriver cette saison. Son coéquipier Charles Leclerc s'élancera 5e et espère jouer un podium pour bien finir la saison. Le dimanche, dernier départ de la saison, Max Verstappen prendra un bon départ et réussira au bout des 58 tours à s'imposer. Mais cela ne suffira pas pour remporter son 5e titre de champion du monde, car Lando Norris, leader du championnat, avait besoin de terminer sur le podium pour conserver sa première place et devenir champion. Ce qu'il réussira à faire en terminant 3e, lui permettant de garder 2 points d'avance seulement sur Verstappen, 2e au classement général. À 26 ans, le pilote britannique décroche son tout premier titre de champion du monde dans une saison où certains lui reprochaient de ne pas avoir le mental d'un champion. Lando Norris a tout de même su prouver le contraire, car c'est lui en 2025, qui est titré devant Verstappen, et qui lui a fait de belles frayeurs et qui s'est montré impitoyable tout au long de la deuxième partie de saison, quand l'évolution de la Red Bull lui a permis de retrouver du rythme. Norris finit aussi devant son coéquipier Piastri, qui, même s'il a été plus en difficulté lors des derniers Grands Prix, a tout de même été à la tête du championnat toute la première partie de saison. Je parle bien de Oscar Piastri. Norris, si tu nous écoutes, mais ça m'étonnerait, congratulations, you deserve it. Mention honorable à Charles Leclerc, qui réalisera une superbe course et qui aura tout donné pour espérer grimper sur le podium à Abu Dhabi. Le Monégasque terminera la course au pied du podium à la 4ème place, de quoi bien terminer la saison. C'était également ma dernière chronique F1 sur FMR et dans l'émission 24ème ciel, fin de saison oblige. Ce fut un plaisir de vous partager ma passion pour ce sport automobile, et j'espère avoir permis à certains de vouloir en apprendre un peu plus sur ce sport tant médiatisé, et que écoutez, vous aura procuré autant de plaisir que j'ai eu à réaliser et présenter mes chroniques. Vendredi prochain, je prendrai donc la direction du ballon rond en vous parlant de football. Mais je n'en dis pas plus, soyez au rendez-vous. À toi mon Charles.
Et tu l'as super bien fait mon Romain. En un seul mot, merci. On passe maintenant à ce qu'il ne fallait pas manquer sur les réseaux sociaux, en commençant par super, et la voix qui part comme ça. Mais en commençant par les réseaux sociaux eux-mêmes, qui sont maintenant officiellement interdits aux moins de 16 ans en Australie. C'est depuis mercredi. Alors, c'est le rêve de certains parents qui se réalise. Les adolescents ne peuvent plus accéder ou créer un compte ni sur TikTok, ni sur Instagram, ni sur Snapchat, ni sur Reddit, ni sur X, ni même sur Facebook. Alors, il faut savoir que même les profils existants d'utilisateurs de moins de 16 ans ont été supprimés. Alors, c'est une mesure qui sert à lutter contre l'addiction aux écrans, le harcèlement en ligne, la violence et les contenus sexuels. Et il faut savoir qu'il y a des applications qui sont encore accessibles aux adolescents comme Lemonade et Yubo, et leur téléchargement grimpe en flèche, bien sûr. Ça vous dit quelque chose, les applications Lemonade et Yubo ?
Pas du tout.
Pas du tout ?
Non, pour ma part, non. J'ai jamais entendu parler.
Ben moi non plus.
Ben donc ça ne dit rien à personne. Alors, et vous devinez la question, vous en pensez quoi de cette mesure, vous deux ?
Bah perso, je trouve que c'est pas à l'état de t'interdire de faire quelque chose, c'est à tes parents. C'est eux qui devraient gérer tes accès aux réseaux sociaux, à quels réseaux sociaux, à pourquoi tu vas sur les réseaux sociaux, etc. C'est pas vraiment à l'état de te dire non, tu peux pas aller sur TikTok. Tu vois, c'est bizarre.
Ouais, c'est bien d'accord avec toi, ouais. Et toi, mon Romain ?
Je suis un peu nuancé, bon, je trouve que c'est pas la pire des choses quand même, parce que moi j'ai les réseaux avant 16 ans, bien sûr, mais c'est quand même un peu tôt, je trouve, avant. Tu peux facilement te faire avoir ou voir des contenus que tu n'es pas censé regarder, et après tu peux en garder des séquelles ou réaliser même des contenus qui sont dangereux, et après en coûter les frais.
Ouais, c'est sûr, mais
je trouve que c'est quand même pas plus mal, moi, honnêtement.
C'est vrai quand même, parce que bon, après 16 ans, c'est quand même 16 ans, on pourrait quand même descendre un petit peu la barre, je pense, après moi, mais enfin, ça, c'est un autre débat. Mais je crois quand même que les parents, à un moment donné, ils baissent pavillon, parce qu'une fois que c'est l'État qui interdit, il y a vraiment des mesures strictes comme celles-là qui sont prises, où on exclut les comptes, où on interdit aux enfants, aux adolescents de s'inscrire. Donc ça règle le problème tout de suite, parce qu'après, avec les parents, enfin, même avec l'interdiction des parents, on peut quand même s'inscrire, consulter ça en cachette, faire des faux comptes, etc.
Couper, donc, mon chat, parce que ils trouveront toujours un moyen.
C'est
que
sûr,
ce soit interdit ou pas, ils trouveront un moyen.
Plus
VPN
quand
ou
même.
Pas VPN, ce genre de choses, mon Charles.
Ça me parle très peu, je dois reconnaître. Hein,
VPN, mais... c'est tu te connectes, ne serait-ce qu'en Belgique, avec un VPN, il y en a des gratuits. Tu te connectes en Belgique.
Ah ouais, les Australiens comme ça, ils ont accès quoi.
Et ils ont accès.
Ouais.
Maintenant, en fait, l'État ne sait pas ce qu'ils font. Je pense, parce qu'eux, ils ont forcément leur mentalité en haut, avec leur vision à eux, mais nous, on a nos visions en bas, avec nos trucs, notre vie, etc.
En pratique.
Ouais, c'est ça, donc eux, ils disent 16 ans. Pourquoi 16 ans, déjà? Qu'est-ce qui fait que c'est 16 ans? Pourquoi pas 14? Pourquoi pas 18, tu vois, par exemple?
C'est un peu un âge de référence, comme la majorité sexuelle. Non, mais c'est 15 ans, la majorité sexuelle.
Tu vois, ça change tous les 10 ans, ça aussi.
Ouais, ouais, ouais.
Donc c'est pour te dire, en fait, ils savent pas ce qu'ils font. Donc moi je dis c'est aux parents de gérer, ils savent mieux comment gérer leurs enfants que l'État lui-même qui gère tous les enfants du pays, tu vois, c'est bizarre.
Ouais, ça c'est sûr, mais bon, après tu veux faire plaisir à tes enfants, tu l'autorises un petit peu, puis tu resserres la vis, puis tous les autres enfants, ouais, chez eux on peut, chez
faut
eux
savoir
on
gérer, peut, faut savoir gérer, si tu sais pas gérer, c'est que tu fais mal ton job en tant que parent, faut être réel.
Ouais, tout dire ça doit être vraiment compliqué, je pense, mais enfin... Ça ne nous concerne pas, on n'a pas d'enfants, ou tout du moins, pas encore. Qu'est-ce que tu veux? On continue avec ce youtubeur jamaïcain, tiens, en parlant d'enfants, qui s'appelle Nick Yardy, qui a enflammé les réseaux sociaux, et quand je vais vous dire pourquoi... Alors il a annoncé que sa petite amie et sa belle-mère sont enceintes en même temps, et de lui. Alors, il avait déjà révélé leur relation polyamoureuse hein, dans une vidéo sur YouTube, où ils ont d'ailleurs choisi les prénoms des bébés, puis... On s'étonnera, hein, encore une fois, qu'on interdit les réseaux sociaux aux adolescents. Bon, vous voulez peut-être savoir les prénoms des bébés?
Pas si, hein. Pas si.
Allez, on y va. Alors, sa petite amie, hein, Jade, a eu une fille qu'ils ont appelée Nicole. Et sa belle-mère, Dani, a eu un garçon qu'ils ont appelé Nick Junior. Voilà. Allez, on va parler amour. Vous pensez qu'on peut être amoureux de deux ou de plusieurs personnes en même temps? Ce qu'on appelle aujourd'hui le polyamour.
Non.
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. On n'est pas à l'école ici.
C'est
hein.
Subjectif, c'est vraiment subjectif et personnellement, moi je pense que chimiquement, oui, c'est possible d'être amoureux de plusieurs personnes et oui, si vous voulez vivre comme ça, faites-le. Moi, dans mon cerveau, moi, dans ma manière de vivre, je trouve qu'un couple normal, enfin normal, je ne sais pas comment dire, deux personnes, c'est comme ça qu'il faut que ce soit, quoi. Si tu commences à avoir un harem, c'est toute autre histoire aussi, tu vois.
Et tu veux dire par là alors que vraiment le sentiment d'amour, vraiment l'état dans lequel on est quand on est amoureux, on peut alors le ressentir que pour une seule personne, c'est ça que tu es en train de dire tu...
Ou bah moi je préférerais comme ça, mais je suis totalement conscient et totalement d'accord sur le fait que c'est le cas pour plusieurs personnes, que tu sois amoureux de plusieurs personnes, tu vois.
Donc d'après toi, on peut vraiment être redingue de plusieurs personnes à la
c'est
fois.
C'est ça, c'est exactement ça.
Ok, ok. Et toi mon Romain, qu'est-ce qu'on en pense?
Bah moi je te rejoins pour entre guillemets les couples normales, c'est deux personnes, mais... À part ça, je peux pas comprendre comment tu peux aimer autant quelqu'un de la même manière, tu vois. Un peu... C'est dans ma tête ça, hein, mais je vois pas... Comment, bah, du moins, avec moi, ce que je ressens et comment je suis, comment je pourrais aimer quelqu'un comme ma copine, par exemple, mais une autre personne en même temps, tu vois. Ou alors, si j'ai l'impression que c'est le cas, bah, alors peut-être que j'aime moins l'autre personne, et alors, à ce moment-là... j'essaie de trouver des solutions.
Ouais, on est plutôt d'accord, toi et moi, mon Romain. Ah ben, avec ça, dans 2 mois et 2 jours, c'est la Saint-Valentin. Allez, on va maintenant parler du footballeur Paul Pogba, hein, qui est devenu actionnaire et ambassadeur d'une écurie de course de chameaux. En Arabie Saoudite, hein, ça s'appelle Al Aboub, et Paul Pogba a annoncé ce nouveau projet par une vidéo sur Instagram et une interview sur la chaîne anglaise BBC. Il faut savoir que c'est un sport très populaire au Moyen-Orient et en Asie, les courses de chameaux, et ce partenariat va justement servir à faire connaître mondialement hein, cet héritage culturel très peu connu chez nous. Vous croyez que Paul Pogba s'est pris de passion pour ce sport, ou que c'est simplement un investissement qui lui promet un beau rendement romain?
Moi je pense plutôt que c'est un investissement de business ou même un peu de buzz, parce que bah, pour ceux qui savent pas, Paul Pogba avait été testé positif à du dopage. Donc il avait été écarté des terrains de football, ça fait pas longtemps qu'il a pu revenir qu'il a décroché un contrat à l'AS Monaco d'ailleurs pour le citer il y a pas longtemps. Donc son retour dans le football, un an il y a la Coupe du Monde, pour faire encore entendre parler de lui. Pour moi, ça peut être du business. Plus du business que juste une passion, sauf si alors là, j'ai l'info que je n'ai pas.
Mais ça vous plairait de découvrir les courses de chameaux?
Oh non, enfin, c'est des chameaux, quoi. C'est ce que je veux dire, ça change quoi d'un cheval?
Et qu'est-ce que ça veut dire, c'est des chameaux, quoi? Non, moi j'aimerais vraiment bien. Ça a un petit côté exotique, comme ça, différent, je sais pas. Franchement, moi ça m'intéresserait. Juste pour découvrir et pour passer un bon moment, comme ça, entre nous.
Bah, tu veux juste passer un bon moment, quoi.
Bah ouais.
Voilà.
En découvrant, on découvre de chameau, je vois le vide agréable de la culture, etc.
Bah écoutez, je suis peut-être aigri, mais moi
t'as
je
raison.
Bah, écoute, désolé, pardon. Non, c'est bon, je change d'avis, j'avais tort. Et toi, mon Romain?
Bah ouais, de ouf. Bah si je suis de passage dans la région et qu'il n'y en a pas loin, vas-y, j'ai envie de découvrir.
Bah oui, toi qui...
Donc j'adore découvrir en plus, pourquoi je le ferais pas?
Et justement, toi qui es au Moyen-Orient, justement avec tes chroniques, tes séquences, etc. sur les Grands Prix de Formule 1 depuis des semaines déjà.
Mais moi je te rejoins totalement, et vas-y, viens, on va le voir ensemble.
Après des courses de voiture, des courses de chameaux.
Voilà. Et la boucle est bouclée.
Et oui, on revient ici, on regarde des courses de chevaux, etc. Et des courses de chevals. Allez, on arrête avec l'humour. Et on revient dans un instant dans 24e ciel. On recevra notre invité de la semaine, c'est Joachim Gilles qui sera avec nous aujourd'hui. Restez avec nous sur FMR, on revient tout de suite. On est de retour dans 24e ciel, merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez maintenant, bienvenue à bord. Joachim Gilles est notre invité ce vendredi. Salut Joachim.
Salut Charles.
Bienvenue au 24e ciel.
Merci.
C'est comme le 7e ciel, mais en mieux.
Oh, je ne le connais que trop bien.
Ah, j'en suis sûr. Joachim, tu es journaliste.
Ouais.
On te retrouve, entre autres, tous les jeudis de 19h à 20h dans la mi-temps, sur ma radio préférée, la meilleure parmi les meilleures, LFM Radio.
Et franchement, tu as très bon goût.
J'en suis sûr. Toi aussi, toi aussi. On est très heureux de te recevoir pour parler de quelqu'un qui compte pour moi. C'est toi.
Ah bah écoute, ça me fait très plaisir et bah c'est vrai qu'il faut signaler que je vous supervise pendant 4 mois. Je dois dire que ça s'est bien passé, je ne dis pas ça parce que je suis sur place, vraiment je pense que ça s'est bien déroulé. Je pense que Julia et Romain à côté de moi pourront acquiescer, enfin j'espère.
Ouais, comme tu le dis, tu nous supervises depuis ces derniers mois,
ouais.
On a cette chance.
Belle progression d'ailleurs, hein. Belle progression.
Ah, c'est très important pour nous d'avoir ton retour d'ailleurs. Hein. Mes questions sont prêtes, est-ce que tu es prêt?
Comme toujours.
Qu'est-ce que ça a été ton plus grand souvenir lié au sport? Ta plus grande émotion dans le sport?
Dans mon métier ou vraiment
toutes choses confondues, que ce soit professionnellement ou que ce soit dans ta vie?
Alors je vais faire une chose que logiquement un journaliste ne doit pas faire, mais je vais sortir de mon objectivité.
C'est ce qu'on attend de toi par cette question.
Voilà, en tout cas, donc
laisse-toi aller.
Hein. Vous avez un petit scoop. Moi je suis supporter du Standard de Liège depuis tout petit. Je me rappelle, j'allais voir les matchs avec mon papa qui avait des places. En fait c'était un huissier de justice et il y avait certains cabinets, certains bureaux d'études qui avaient des places soit offertes ou même un peu moins chères. Et c'est là que j'ai un peu fait mes premiers pas, du moins dans les stades de foot, même si j'ai commencé le foot de mon côté aussi, mais mes premiers pas dans un stade de foot c'était à Sclessin. Et forcément je pense que l'émotion pour un Standardman la plus forte, ça a été le doublé, les deux titres. Il y a maintenant de ça, ça remonte un petit moment, près de 20 ans, mais c'était les deux titres en D1 belge, chaque fois contre Anderlecht. Et puis vraiment, si je dois élargir un peu plus dans le domaine du monde sportif, ça reste le mondial 2018 des Diables Rouges, où là on bat le Brésil, qui reste une des nations, si pas la nation du football. Je me rappelle, j'ai vécu ça aux Ardentes, j'étais encore stagiaire chez RTC, Télé Liège à l'époque. Donc on alternait entre job, on était bénévole sur un festival qui était cool, et après on pouvait profiter des matchs sur grand écran. Et vraiment ça, vivre ça en communion avec tout le monde aux Ardentes, où forcément je pense que 90% des gens là-bas sont belges, c'était fantastique.
Ouais, carrément, tu sais, c'est pas mon avis qu'on attend d'entendre ici. Le fameux mondial de 2018, moi je l'ai vécu de France, donc le match Belgique-France, je l'ai vécu là-bas, on était deux tables de supporters belges, parmi évidemment une marée de supporters français, et j'ai subi notre défaite en direct au milieu d'eux, et avec évidemment tout leur
applaudissement.
Il n'y a pas pire.
Il n'y a pas pire, et à chaque fois, moi je me redis, je repense à si ça avait tourné dans le sens des Diables. Je ne dis pas forcément une victoire au mondial, mais. Voilà, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de moqueries, et que ce soit si bien dans le monde du foot que dans d'autres domaines, le domaine du basket. Justement, on parlait de l'émission à la mi-temps que j'anime ici. Même au niveau du basket, cette rivalité, voire parfois cette haine, ça se transforme en haine, elle se transpose à d'autres sports comme le basket. Parfois, voilà, je recevais Lola Paulus qui est une coach de basket du côté de Wii. Elle est déjà allée jouer en France et on parle toujours de ce soi-disant seum.
Exactement.
qui ressort. Donc ouais, ça c'est. Je me dis, si ça avait été l'inverse, peut-être qu'on voilà, le cours des choses aurait été différent, même dans le sport français. Voilà. Ouais. Parce que je pense que ça a vraiment été un boost pour la France aussi de gagner cette Coupe du Monde en Russie.
Ouais, à fond, à fond. Joachim, on passe maintenant aux questions flash avec les questions antagonistes. C'est une petite création de la maison qui demande une réponse courte à une question courte.
Ça tombe bien, je connais cet exercice pour le faire moi-même.
Ah, génial alors. Ah ben, il va avoir du résultat.
Allez, j'espère alors, pour toi.
Ouais, ça va chauffer dans les chaumières. Joachim, quel est ton meilleur souvenir professionnel ?
Ouf, c'est dur d'en sortir un comme ça. Bah, je vais sortir un souvenir comme ça qui me vient. Il y en a plein, mais moi je me rappelle quand l'RFC Liège est monté en D1B et remonté en D1B il y a quelques années. Alors c'était du côté de Tirlemont, mais c'était un peu spécial parce qu'on était vraiment, on fonctionnait vraiment comme une équipe de journalistes. On était plusieurs, on était peut-être 4 ou 5. Et à la fin du match, quand Liège valide sa remontée dans le football professionnel, bah, on est allé sur le terrain pour directement poser la question aux joueurs du RFC Liège, voilà, comment est-ce que vivait ce titre. C'était un moment historique, c'est peut-être pas le plus grand moment où les plus grandes stars sportives que j'ai pu interviewer. Bon, désolé, c'est pas une réponse flash, hein, mais c'est un peu plus long. Mais voilà, je pense à ça et je pense aussi à mon premier... À mes premiers directs aussi. Je crois que mon tout premier direct commenté, c'est ici à Serein. Et puis aussi le premier vrai duplex en direct, etc. C'est les directs que j'ai pu faire du côté du RFC Liège, du côté du volet d'Ouarem. Donc c'est vraiment mes premiers directs, parce qu'au final, c'est un peu ça, mon ambition qui m'a guidé dans ce métier.
Absolument. Et j'imagine juste ensuite, mi-septembre 2025, quand on s'est rencontrés, quoi.
Hein. Exactement, exactement. Mais c'est hors catégorie. Ça, voilà. Évidemment, je peux pas le classer.
Oh, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est une bonne et belle réponse.
Et oui, et ça, juste petite parenthèse, je pense que mon idole de toujours, ça a toujours été Mark Wilmots. Et je ne l'ai pas rencontré dans un cadre, enfin, je l'ai rencontré dans un cadre professionnel, mais j'ai pu un peu parler avec lui et montrer une photo que j'avais fait avec lui quand j'étais gamin à 6 ans. Donc, ça, vraiment, c'est. L'achèvement ultime, quoi.
Ah, carrément ?
Ouais, ouais.
Ah ouais, ça, on y reviendra après, justement. On y reviendra après. Et ton pire souvenir professionnel, qu'est-ce que c'est ?
Alors, je dirais pas que j'ai de pires souvenirs, mais là où vraiment c'était compliqué, ça, c'est surtout des souvenirs de tournage, même si au final le rendu est bien, c'est des fois des conditions. Bah, j'ai déjà filmé, commenté des matchs dans des conditions météorologiques dantesques, que ce soit de me prendre une grosse drache sur la tronche, c'était à Amoire, je vois un rideau de pluie avancer dans les vallées, et sur 3 minutes de temps, vraiment, on est trempé comme si tu tombais dans une piscine. J'ai déjà dû commenter un match par moins 5. Je peux vous dire qu'après 10 minutes, on pense plus à se réchauffer les mains qu'à commenter. Et puis, je pense, le premier vrai mauvais souvenir, entre guillemets, que j'ai, c'est la première fois où j'étais un peu déstabilisé. Je me rappelle, j'avais interviewé Dimitri Abran, c'est un ancien gardien du Standard de Liège, qui était redescendu dans les séries provinciales, et c'est pas celui qui est le plus loquace ou qui a le plus de facilité à s'exprimer. Et je lui ai posé une question, il m'a répondu par oui. Et j'ai pas su comment enchaîner.
Cool, sympa.
Oui, non, voilà. Donc ça aussi très important, toujours faire des questions ouvertes plutôt que fermées, parce que sinon on risque de se retrouver devant une réponse, il n'y a pas de matière, quoi.
Ce que tu m'as appris, hein, d'une part, et voilà. D'autre part, merci de ne pas faire ça avec
voilà.
Moi. Hein.
Mais ça c'est plus, exactement. mais ça c'est plus des souvenirs de tournage ou d'interview. Évidemment, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues me trouver en me demandant des comptes par rapport à des trucs que j'avais écrits, mais ça, je fais même pas attention parce que c'est plus une forme d'intimidation, et j'ai toujours été correct dans mes reportages, dans mes articles. J'ai jamais cherché à faire du mal à quelqu'un, donc voilà, ça à la limite, j'ai même pas envie d'y penser, quoi.
Et quel est l'invité que tu adorais recevoir, à part moi, hein?
Il y en a plein encore, parce qu'il y a beaucoup de stars du sport que j'admire, même si je trouve que dans beaucoup de sports aujourd'hui, il y a quelque chose qui se perd. Même dans le football, le sport que j'adore le plus, Il y a un peu une atmosphère nauséabonde qui est en train de s'installer. Mais j'aurais envie de dire, pour boucler la boucle, Marc Ullmotz.
Le fameux.
Voilà.
Et l'invité que tu ne voudrais surtout pas recevoir.
Toujours dans le domaine sportif ou...
Dans tous les domaines. En tant que journaliste, que ce soit journaliste sportif, journaliste plus classique, peu importe la personnalité.
Écoute, je vais la faire facile pour rester quand même dans le domaine du sport, dans le domaine du football belge et liégeois. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un certain Martin Wasilewski, ancien joueur d'Anderlecht, qui vraiment, en fait, c'est le premier joueur qui m'a marqué négativement, dans le sens où c'est un joueur alors qui était rude sur l'homme, mais qui mettait facilement des coups aux joueurs, vraiment pour les blesser. Bon, le karma a fait qu'il s'est retrouvé avec un tibia péroné cassé hein, face à Witzel. Bon, évidemment, on ne souhaite ça à personne, mais je pense que c'est vraiment la première personne dans le monde du sport où je me suis dit, c'est vraiment un sale mec. Voilà, Wasilewski.
Ok,
si
d'accord.
Tu nous entends d'ailleurs.
Ah, dédicace. Ouais, ouais, ouais. Exactement, spécial dédicace pour lui. Quel est l'invité que tu as préféré recevoir?
Bon, en fait, les invités que je préfère recevoir, alors j'ai été heureux d'interviewer certains noms du sport, mais j'ai toujours été dans des médias, forcément, qui parlaient de sport local. Et je pense que c'est là où on a les meilleures surprises, parce que ce sont des gens qui se prennent pas la tête la plupart du temps. Alors il y a toujours un peu le stress de la première interview, du fait que... Ils ne paraissent pas toujours dans les médias, mais là où tu as les meilleures surprises, je trouve, ce sont les petits acteurs du sport, si je peux dire ça comme ça, que ce soit des joueurs du foot provincial ou des petits présidents de clubs de basket. C'est vraiment là que tu trouves, je trouve, l'intérêt en fait, de ton activité, de ton métier, parce que évidemment, c'est une fierté d'interviewer certaines stars. Mais là, vraiment, tu mets en lumière des gens qui, sans nous, sans les petits médias, passeraient vraiment au travers des mailles du filet. Donc voilà, je pense généralement, c'est les petits acteurs du sport.
Et l'invité que tu ne voudrais plus jamais recevoir?
Il y en a... Ça reste quand même dans le football provincial, parce que autant ce que j'aime dans ce milieu-là, c'est la proximité. Mais il y a des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas aussi que proximité ne veut pas dire contact intempestif. J'ai été responsable d'une rubrique de foot provincial pendant des années, et il y en a qui ne comprennent pas qu'après une certaine heure, il faut laisser les gens tranquilles.
Ah, carrément.
Il faut, oui, il faut. Il y a des gens qui peuvent t'envoyer des messages à minuit, 1h du matin en demandant des comptes, presque comme si on était le président de leur club, quoi. Mais voilà, je ne citerai pas son nom parce que je pense que ce serait de faire une mauvaise pub, mais c'est un ancien joueur de National qui, sur la fin, a dégringolé dans les étages du foot provincial.
National, hein?
Du foot national, donc les séries nationales, un joueur qui a joué du côté de, je crois, du côté de Stoquet, du côté de Serein, enfin je ne vais pas citer son nom.
Serein, mon équipe préférée au passage.
Exactement, c'est vrai qu'on est sur les terres sérésiennes.
On les embrasse.
Mais c'est un gars qui un jour m'a un peu fait des noises pour un article qui finalement n'est pas paru, il avait raison, et au final j'ai appris plus tard que c'était un gars qui avait escroqué des personnes homosexuelles en se faisant passer pour un homosexuel lui-même, et c'est paru dans la presse. Hein. Ce gars-là fait de la prison parce que pour escroquerie, donc voilà, mais c'est pas le seul, hein. il y en a d'autres que je pourrais te citer, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit.
Eh bien Joachim, quand tu parles d'une dégringolade, hein, on imagine bien pourquoi.
Ah bah aujourd'hui, oui, c'est vraiment une dégringolade pour lui.
Quel est le conseil ou l'avertissement que tu aurais voulu qu'on te donne pour ta vie professionnelle?
Je pense, c'est peut-être un truc que j'aurais dit plus tard dans la chronique, mais il faut pas avoir peur de se lancer ou de se lancer des défis, d'accepter des challenges qui peut-être parfois comme ça nous semblent inatteignables. Faut pas avoir peur de pousser la porte de certaines entreprises, certains médias. Faut pas se dire oui, je suis pas assez formé, je suis pas assez bon pour le faire. Aujourd'hui, tout peut aller très vite, aussi bien dans un sens comme dans l'autre. Je pense que, voilà, Joachim d'il y a 10 ans, je trouve quand même que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Mais Joachim d'il y a 10 ans, je lui aurais dit, écoute, c'est pas parce que t'es pas encore assez formé que tu peux pas aller toquer à la porte de la RTB, de RTL, de DAZN, un truc comme ça. Donc voilà, avoir un peu plus de confiance en soi.
Conseil à retenir. Et le conseil ou l'avertissement que tu aurais voulu qu'on te donne pour ta vie privée ?
Pour ma vie privée.
Pour ta vie privée.
Justement, ne pas être trop perfectionniste. Ne pas être trop perfectionniste parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être carré, il faut être structuré. Mais on n'arrivera jamais à la perfection, ce sera jamais à 100% comme on veut. Et il faut aussi pouvoir se contenter d'un travail qui est peut-être pas parfaitement fait, mais qui est bien fait. Et ça, c'est dans tous les niveaux de la vie. Je commence un petit peu à l'ingurgiter, cette notion. Mais voilà, il ne faut pas non plus se mettre martel en tête. Il ne faut pas vouloir tout faire, tout parfaitement partout. C'est impossible.
Quel est ton rêve ultime dans ta carrière ?
Je pense que mon rêve ultime, ça reste quand même de commenter des matchs de foot à un très haut niveau, au niveau international. Je pense pas que ce sera pour cette année, mais il y a peut-être moyen, via un contact, que j'aille à la Coupe du Monde au Canada.
Via ton talent aussi ?
Oui,
mais à moins de préciser.
Je pense qu'on n'arrive jamais sans un minimum de qualité dans ces événements-là, mais il y aurait peut-être moyen que j'aille à la Coupe du Monde 2026. Et on verra, ça peut être un tremplin pour autre chose.
Je te le souhaite énormément, mon Joachim. Et ton rêve ultime dans ta vie privée ?
Mon rêve ultime dans ma vie privée, je pense que j'en ai plein, mais je pense que ce serait vraiment faire le tour du monde. C'est peut-être pas, quand je dis faire le tour du monde, c'est vraiment le tour des destinations qui me font envie ou qui m'intriguent. Bon, évidemment, je vais éviter les pays un peu dangereux, hein, et puis il y a des pays qui me tentent pas forcément. Mais ce que je me souhaite, c'est vraiment qu'à la fin de ma vie, je me suis dit, j'ai bien profité. Et voilà, je suis pas resté tout seul dans mon canapé à rien foutre. Voilà, vraiment découvrir le monde.
Après avoir parlé du passé et du présent, si on parlait du futur ?
Avec plaisir.
Et si on te proposait de faire l'émission parfaite sur le sport, à la radio ou à la télévision, tu pourrais t'entourer de n'importe lequel de tes confrères journalistes et de n'importe quel sportif pour t'assister, ce que chacun d'entre eux accepterait bien sûr avec plaisir. Qui est-ce que tu choisirais ?
Pour faire une émission ?
Absolument. Télévision ou radio, mais une émission vraiment, pour toi, parfaite sur le sport.
Ben voilà, je pense que moi, mon idole dans les commentateurs sportifs, ça reste Rodrigo Benquens. J'ai bien aimé, paix à son âme, j'ai bien aimé Thierry Gilardi, qui était plutôt sur TF1, à une époque où j'avais encore une petite... un petit amour pour les Bleus,
même si, voilà.
Mais il y a tout un moment où forcément la Belgique n'était pas alignée dans les compétitions internationales, et où moi je regardais la France, j'adorais regarder Thierry Henry, Zinedine Zidane, voilà, c'était des...
grand basketteur, hein, tout cela.
Exactement, j'aurais dit même hockeyeur. Non, voilà, je pense que je vais rester sur mon idée de Rodrigo Benquens, parce que c'est un mec qui sait vraiment mettre de l'émotion, qui apporte en plus vraiment beaucoup d'informations, et je trouve ça toujours pertinent. Du moins, je trouvais ça pertinent dans le monde du foot. Et voilà, même quand je regarde le cyclisme, je m'emmerde pas. Je m'emmerde pas quand je l'écoute commenter. Donc voilà, vraiment, pour moi, ce serait le binôme de rêve.
Dis-moi, elle serait comment cette émission ? Je m'explique. Tu crois qu'on pourrait enfin rendre une émission sur le sport intéressante pour ceux qui ne sont pas, au départ, des passionnés de sport ?
Au-delà de la mi-temps ?
Bien sûr, évidemment. Ça, je ne le précisais pas parce que la mi-temps...
Je fais une auto-promo.
Mais complètement au-dessus de la mêlée, t'inquiète pas, je la fais aussi pour toi, la promo.
Mais comment est-ce qu'on pourrait rendre une émission intéressante et accessible à tous ? C'est pour ça que j'aime bien que ce soit des radios comme LFM ou des télés comme 4, parce que ça permet de mettre en valeur des acteurs du sport dont on n'aurait peut-être jamais parlé sur des chaînes nationales. Après, je comprends aussi que des chaînes nationales ne se concentrent que sur le gratin, parce que c'est pas le même public. Je dirais qu'il en faut pour tout le monde. Je crois qu'il y en a qui aiment bien regarder le sport, mais vraiment le sport de haut niveau, et qui s'en tapent de voir le petit match de rugby de D1 féminine. Pas que j'adore ça, mais je sens en parler, je connais, j'aime bien en parler. Mais je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Mais voilà, et c'est pour ça, pour revenir sur la mi-temps, c'est pour ça qu'on a créé ça. On essaye de rendre ça accessible à tous, à tout le monde, de ne pas parler que de football. On essaye aussi de parler de sport un peu moins médiatisé ou même parfois méconnu. Que ce soit dernièrement, on a parlé du paraski. Hein, on avait reçu Jérémy Préliardien, qui est un gars qui fait du ski sur un bob. Donc c'est un peu compliqué comme ça à expliquer en quelques secondes. Que ce soit de l'apnée à la brasse. Donc on essaie vraiment de parler tout, mais pour ne pas être trop non plus dans les détails, parce que justement on est une radio qui est assez généraliste. Et donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre un pied d'entrée dans ce sport, mais que ça reste vulgarisé et que tout le monde puisse y avoir accès, quoi. Voilà, c'est un premier pied dans le sport. Après, si vous voulez aller voir plus loin, à vous de le découvrir.
Et tu le fais très bien d'ailleurs. Excellente émission.
Essaie,
la mi-temps de 19h à 20h sur LFM Radio, je le rappelle. Avant de te libérer, Joachim, on passe à la minute libre. Je te laisse maintenant une minute pour dire ce que tu veux, tout ce que tu veux, comme tu le veux, si tu le veux.
Je ne sais pas si ça va durer une minute, mais tout ce que j'aurai à dire pour ceux qui ne sont pas encore dans ce milieu-là ou qui démarrent, tout simplement, il faut vraiment se rendre disponible. C'est un peu aussi cet exercice-là que tu me demandes de faire, c'est un petit peu ce qu'on nous demande de dire quand on reçoit des stagiaires, par exemple en haute école. Quel serait le conseil à donner à ces étudiants-là? Il faut vraiment se rendre disponible. Il faut parfois accepter des piges ou des trucs des piges à pas d'heure ou des trucs qui rapportent pas grand-chose, parce que c'est vraiment ça, c'est ce socle-là, ce travail de fond qui va vous permettre plus tard d'avoir, je vais pas dire facilement, mais sans trop de difficultés, des contacts à gauche, à droite au niveau professionnel. C'est comme ça que vous vous faites connaître. Et voilà, il faut pas hésiter à se rendre disponible. Et il faut pas avoir peur, comme je disais tantôt, de se lancer des challenges, de se lancer des défis. De toute façon, vous avez rien à perdre. Et que ce soit auprès de médias réputés, connus, ou même si vous voulez lancer votre propre podcast, aujourd'hui il y a plein de trucs qui se font. C'est même limite aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, ce sont les chaînes YouTube, ce sont les podcasts sur Spotify, ce sont les petites vidéos sur TikTok. Donc moi, si aujourd'hui j'ai un conseil à donner, c'est si vous avez un format, une idée en tête, écrivez-la sur papier et lancez-vous.
Merci pour tes bons conseils, Joachim. On en a bien besoin, venant de gens comme toi. Merci d'être prêté au jeu. Encore une fois, ça a été un plaisir pour nous de te recevoir.
Plaisir partagé.
C'est vraiment adorable. Je rappelle ton émission La Mi-temps, qu'on peut retrouver tous les jeudis de 19h à 20h sur LFM Radio, la meilleure radio. En parlant de mi-temps, on va, quand tu veux, faire la troisième ensemble. Hein.
Et même la quatrième, si tu veux.
Autant que tu veux, c'est avec plaisir. Je suis ton homme.
Je l'ai vu il n'y a pas longtemps.
oui. Excellente soirée. On te souhaite bien sûr le plus grand succès, mais à titre personnel, on te souhaite le meilleur, parce que l'équipe de 24e Ciel, dont ton serviteur, sait qu'elle te doit beaucoup. Bon week-end, Joachim.
Bon week-end à vous tous.
C'est déjà la fin de 24e Ciel. Merci, Julien.
Merci, mon Charles.
Merci, Romain.
Avec plaisir.
Merci à tous de nous avoir suivis. On est très impatients de vous retrouver vendredi prochain à 16h dans 24e Ciel sur FMR. Bon week-end.